Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.
Bonjour Mara Pavoulan, bienvenue et merci de participer au podcast de Riga Cirque, le cirque de Riga.
Bonjour.
Je voudrais commencer par te présenter un peu évidemment aux auditeurs qu'on a, notamment le lien spécifique que tu as à la France. Dis-moi si je me trompe, mais de ce que je sais, tu as une licence en langue et littérature française qui t'a amené à réaliser un Erasmus dans la ville du Havre. T'as également une licence en relations interculturelles entre la Lettonie et la France que tu as obtenue à l'Académie de la culture lettonne. Et t'as également un master des arts de la scène, plus précisément un master pro en coopération culturelle internationale que tu as eu à l'Université Vincennes-Saint-Denis. D'où te vient cet attrait, cet intérêt pour la France ?
En fait, j'ai une licence que j'ai obtenue à l'Académie de la culture en Lettonie. C'est une licence dans les arts avec la spécialité relations interculturelles entre la Lettonie et la France. Mmh. Et pendant ces études, je suis partie en Erasmus à la faculté d'histoire et littérature à l'Université du Havre. Vu que mes études de coopération interculturelle entre la Lettonie et la France n'est pas vraiment une spécialité qui est disponible en France.
D'accord. Et du coup, quand tu as fait le choix de ces études, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Qu'est-ce qui t'intéressait à travailler sur la France et sa culture ? Ou à travailler avec la France, plutôt ?
Moi, ça m'a toujours attiré, la langue française. Quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas encore si je veux poursuivre une carrière dans les arts ou une carrière diplomatique. Mais j'avais bien choisi que je voudrais bien étudier à l'Académie de la culture parce que c'est une université publique, une école publique, mais qui est de petite taille. Elle ressemble plus aux écoles en France qu'à une université. On était 18 dans la promotion avec des groupes de 9 personnes. Et ça m'arrangeait bien, en fait, pour ma façon d'apprendre des choses. Et vu que cette année, cette spécialité était disponible, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'Académie de la culture et choisir cette direction culture française qui me permettait, du coup, de postponer d'une certaine manière le choix entre la diplomatie et les arts.
D'accord. Et quel souvenir tu gardes de tes études en France ?
Du coup, je suis allée en France après mes études à l'Académie de la culture. Je suis allée en France parce que je me suis rendu compte pendant mes études en Lettonie que j'avais vraiment envie de travailler dans le cirque contemporain, mais qui n'existait pas à l'époque en Lettonie. Il n'y avait même pas le festival. Le festival, on l'a fondé quand j'étais déjà en France. Et donc, je suis partie à Paris en recherche de collaborateurs, des collègues et juste d'expérience dans le cirque contemporain. Et au 12e année de mon séjour à Paris, j'ai appris de l'existence de ce programme de master en coopération artistique internationale. Pareillement, un programme très particulier, parce qu'il prenait que 20 étudiants à la base d'un projet, et dont la moitié étaient des étrangers, et qui avait pour le but de réaliser ton projet professionnel vraiment. Et pour moi, j'y voyais vraiment une possibilité de développer le cirque dans le pays balte avec, en fait, un appui, avec une aide étrangère, avec une expertise étrangère. Et donc, j'ai tenté, j'étais prise et j'ai vraiment apprécié mes 12 ans d'études. C'était un master professionnel avec très peu de cours théoriques, avec beaucoup d'assistance très individualisée par les professeurs et beaucoup de... on avait beaucoup de temps fort dans les institutions. On passait une semaine entière à étudier, par exemple, le fonctionnement de 104 à Paris ou des autres entreprises culturelles. C'est ce qui m'a permis vraiment de découvrir ce fonctionnement des différentes institutions en France, mais aussi juste le fonctionnement vraiment de l'intérieur par tous ces aspects. Et en même temps, sans prendre trop de temps, qui m'était très important pour pouvoir développer mon projet à moi, qui était à l'époque Next Door Circus, qui était un réseau pour les artistes de rue et des artistes du cirque de pays baltes.
D'accord, tu évoques justement cette volonté que tu avais déjà de développer le cirque dans les pays baltes. Je t'ai posé la question sur quel était ton intérêt, quel était ton attrait pour la France. D'où est né, d'où vient l'intérêt, voire la passion d'ailleurs que tu as pour le cirque ? Ça vient d'où ?
C'est un pur hasard. Pendant mes études à l'Académie de la culture en Lettonie, nous avons une obligation de faire des recherches à partir de 12e année. C'est une licence de 4 ans. Et il y avait une professeure qui avait proposé comme sujet Cirque du Soleil comme symbole de la culture du Québec. Et j'avais choisi ce sujet sans vraiment beaucoup réfléchir. J'avais choisi ça surtout parce que Canada aussi, ça m'intéressait. Et surtout parce que je me disais que le professeur, que je voudrais bien que ce soit cette professeure-là qui dirige mon travail de recherche. Et en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun livre sur le cirque en letton, ni en Lettonie. Je pense que dans la Bibliothèque nationale, il y avait un livre en anglais sur l'histoire du cirque, sur le développement du cirque moderne aux États-Unis. Et donc, en fait, quand je suis partie en Erasmus, j'ai décidé de profiter de mon séjour en France pour vraiment faire ma recherche. Je suis allée surtout à la bibliothèque de Pompidou et j'ai découvert qu'il y a tout un placard avec des livres sur le cirque contemporain et que le Cirque du Soleil, c'était pas du tout l'aboutissement du développement du cirque, qu'il y avait un autre genre que je connaissais pas, qui est vraiment le cirque contemporain, qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus philosophique. Et c'est là où je me suis dit que c'est ça à quoi je veux d'abord dédier toutes mes recherches qui vient et plus tard aussi ma carrière professionnelle.
Avant qu'on développe un peu plus justement la question afin de savoir ce qu'est le cirque contemporain, je voudrais revenir un peu sur toi, ton rôle ici. Du coup, tu es la directrice du cirque de Riga depuis combien de temps maintenant?
Je suis directrice du cirque de Riga depuis 2 ans et demi maintenant. Mais j'étais impliquée dans la création de nouveaux cirques de Riga. On a fait une sorte de révolution il y a 7 ans maintenant. Parce que c'était un cirque en dur qui accueillait pendant longtemps un cirque traditionnel. Et depuis 2017, avec mes collègues, on mène un nouveau projet pour faire un centre multifonctionnel pour les arts du cirque, mais aussi pour les autres arts. Et je suis une des auteurs de ce projet depuis 2017. Et je travaillais au cirque d'abord comme directrice d'école de cirque, directrice de développement stratégique. Et depuis 2 ans et demi, j'ai pris la position de directrice de cirque.
Tu parlais justement de ce changement d'ambition et de vision pour le cirque, qui devient un centre artistique multifonctionnel. Quelles sont les différentes fonctions du cirque justement que vous essayez de développer depuis 2017?
On a 3 grandes actions principales. Premièrement, c'est la programmation internationale. Et c'est quelque chose avec quoi on est spécial dans la scène lettonne des arts de spectacle, parce qu'on est le seul théâtre national, parce qu'on appartient à l'État, qui n'est pas un théâtre de répertoire. On n'a pas une troupe à nous, on n'a pas des acteurs embauchés par nous qui créent des spectacles de répertoire, mais on fait une programmation qui nous permet aussi de amener des spectacles internationaux pour le public letton. On a également une école de cirque. Pour le moment, c'est une école amateur avec des enfants et des adultes. Mais on a une ambition de créer une école préparatoire et un jour, on aurait une licence en cirque. Parallèlement à ça, on organise aussi souvent des ateliers de cirque pour les professionnels sur plusieurs jours. Pour les artistes, mais pas que. On travaille aussi, par exemple, avec des journalistes qui écrivent des critiques du théâtre pour les soutenir à développer la capacité d'écrire des critiques aussi sur le cirque. Et puis, les 3e grand axe, c'est vraiment la production et le soutien aux productions existantes dans les pays baltes. Donc, nous, on produit quelques spectacles qu'on tourne dans les écoles ou qu'on montre aussi chez nous. On travaille beaucoup sur les projets internationaux. On travaille avec des autres partenaires en Europe pour créer des programmes qui soutiennent des artistes émergents dans le pays balte et qui soutiennent aussi la visibilité des spectacles qui sont créés dans le pays balte à l'étranger.
Merci. Concernant justement ces trois objectifs ou ces 3 missions principales, je voudrais rentrer un peu plus dans le spécifique si tu me le permets. Concernant les spectacles, puisque tu disais qu'effectivement il n'y a pas de troupe au cirque qui est installée, c'est comment sont choisis les spectacles? Je sais que tu travailles aussi avec un directeur artistique, donc comment vous choisissez les spectacles? Est-ce que vous avez un quota de spectacles assurés par année ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir, je ne sais pas, 5, 6, 7, 15, 20 spectacles à l'année ou pas du tout?
Alors, le nombre de spectacles, c'est bien sûr une question budgétaire, mais c'est aussi une question de planification. Nous avons déposé une stratégie de 3 ans auprès de la ministère de la Culture, et c'est une négociation chaque année. On signe le contrat qui prévoit en fait le résultat et qui est très lié avec le budget. Parce que nous sommes une entreprise d'État, avec des missions qui sont pas que financières. Et parmi ces missions, c'est le nombre de spectacles, le nombre d'élèves, le nombre de spectateurs, etc. Nous sommes assez créatifs dans notre modèle financier. Et donc, nous vivons pas que du financement public. Nous faisons aussi pas mal de location de lieux. Nous vendons de différents produits culturels aussi au secteur privé, justement pour assurer une programmation qui est plus large. Et nous cherchons aussi des fonds étrangers pour pouvoir assurer la programmation. La programmation comparée aux autres grandes institutions en France est peut-être pas très très riche, mais je trouve qu'elle est correcte. On a autour de 6 spectacles différents par année, avec 3 représentations chacune, plus en festival pendant l'été avec 6 à 7 spectacles et compagnies différentes avec 2-3 représentations. Donc, en totalité, on a pendant l'année une 60aine de dates de spectacles.
Le deuxième point, du coup, tu parlais de l'enseignement. Donc, actuellement, il y a une école de cirque à Riga, puis il y a une vision à long terme. Quelles disciplines sont actuellement offertes? Quelles disciplines sont proposées actuellement?
Alors, école de cirque, comme mon école loisir, elle se spécialise pas énormément sur les disciplines. L'idée, c'est vraiment de construire un lieu d'apprentissage, un lieu de développement pour les enfants, mais pas que, où on peut apprendre de différentes choses dans la vie par le moyen des disciplines du cirque. Donc, la discipline du cirque dans une école loisir, pour moi, est plutôt un moyen qui est un but. On apprend le monocycle. Pour l'instant, c'est pas pour qu'ils deviennent des meilleurs monocyclistes du monde, c'est pour développer leur capacité d'équilibre. Et surtout, la capacité de penser artistiquement avec son corps, d'apprendre à collaborer, de coopérer, d'apprendre à avoir une motivation qui vient pas par un regard extérieur, mais par un regard intérieur, de ne pas se comparer avec des autres, mais de se comparer avec soi-même. Et donc, nous obligeons tous les élèves d'apprendre plus ou moins toutes les disciplines, au moins pendant les premières 3-4 ans. Comme ça, tout le monde a des bases dans le jonglage, dans des acrobaties, dans l'équilibre. Comme ça, après, les élèves qui veulent partir pour un voie plus professionnelle, ils ont vraiment la conscience, c'est ce qu'ils aiment et c'est ce qu'ils n'aiment pas, ou ils sont plus doués ou ils sont moins doués. En ce moment, il est possible d'apprendre. On a des professeurs qui peuvent enseigner le jonglage, toutes les disciplines d'équilibre comme monocycle, rollabola, fil de fer, slackline. On a aussi l'acrobatie du sol et l'acrobatie aérienne. Et puis, on a aussi des cours de clown. Et bien sûr, tout le manipulation d'objets, jonglage, mais aussi diablo, etc.
Et le dernier point, du coup, c'est la production. Donc, peut-être certains qui joignent l'école pour le loisir, peut-être rejoindront un jour. Vous offrez également des résidences aux artistes. Quelles infrastructures le cirque de Riga peut proposer? Et aussi une question pour les artistes qui pourraient nous écouter, qui seraient intéressés. C'est peuvent-ils bénéficier d'un support financier lorsqu'ils candidatent pour une résidence chez vous?
Alors, nous proposons des résidences artistiques, ou plutôt souvent, on propose la mise à disposition du lieu. Nous ne recevons pas un financement spécifique pour pouvoir donner des résidences, malheureusement. Mais nous voulons vraiment soutenir les créations, surtout sachant que dans les pays baltes, il y a très peu d'espaces qui sont accessibles aux artistes et qui sont adaptés aux nécessités des artistes du cirque. Le cirque de Riga, bien sûr, est un endroit incroyable pour le travail, pour la création, vu que nous avons pas seulement une grande piste, mais on peut travailler aussi pour les spectacles frontal des dents, mais surtout que nous avons tous les points d'accrochage au sol, au plafond, au mur, pour pouvoir travailler vraiment des agrès du cirque, même le plus compliqué. Qu'on avait construit le cirque, qu'on avait reconstruit le cirque, les grilles étaient pensées pour plein de scénarios, dont un des plus compliqués, c'était, on a dit aux architectes, on a besoin qu'on puisse mettre 2 trapèzes volantes et 10 cordes lisses en même temps. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on va vraiment le faire, mais on voulait être sûr qu'on n'aura jamais la question à poser, est-ce que nous pouvons mettre ça et ça en même temps? Et ça permet une énorme liberté aux artistes de travailler dedans. Donc, pour cette raison, on essaye d'avoir l'ouverture envers les artistes pour pouvoir proposer des résidences. Mais en Lettonie, nous n'avons pas ce système de soutien aux résidences par le gouvernement. Donc, c'est sur le finance du cirque où nous devons le faire, qui est dédié à la programmation normalement. Et ça peut être de très grands coûts. Par exemple, en hiver, le chauffage par mois nous coûte près de 10 000 euros. Donc, prêter une salle pour 2 semaines à un groupe artistique, ça nous coûte 6 000 euros, qui est un énorme coût pour nous. Donc, on essaye de trouver un équilibre entre de résidences financées par des différents programmes et des mises à disposition de lieux qu'on propose, nous. Et c'est ce qui est différent, peut-être, avec les autres institutions. Parfois, on demande une contrepartie d'artistes par une représentation qui suit ensuite pour que ça devienne vraiment un travail de collaboration. Quand on avait imaginé le projet, on avait bien sûr imaginé que nous voudrions devenir un de ces lieux de résidence pour les artistes. Et je crois que c'est vraiment crucial qu'il y ait des espaces de création si nous voulons voir une future du cirque. Dans le Pays Baltes, c'est un vrai problème. Il y a très peu d'endroits pour les artistes où s'entraîner ou créer. Nous proposons aussi, d'ailleurs, dans l'école du cirque, qui est dans un autre endroit, d'avoir un espace d'entraînement quotidien pour les artistes professionnels. Et souvent aussi, on met en disposition le cirque pour les résidences artistiques. Nous proposons de résidences artistiques financées quand nous réussissons d'avoir un soutien par des autres institutions financières étrangères ou locales. Comme par exemple cet été, on a réussi d'avoir un outil financier pour pouvoir soutenir des résidences artistiques par les artistes du Pays Baltes. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un programme en coopération avec le fonds nordique. Et dans ce cas-là, oui, nous pouvons soutenir aussi le voyage, l'hébergement et parfois payer une certaine somme aux artistes pour la production. Mais ce n'est pas une programme régulière, nous ne pouvons pas l'assurer parce qu'on n'a pas ces moyens financiers. Et puis, hors de ce programme-là, sur le cas par cas, en fait, nous proposons aux artistes aussi d'utiliser le cirque pour leur création. Mais dans ce cas-là, il faut que ça devienne un projet de coopération pour que nous pouvons aussi le légitimiser de notre côté, parce que c'est des grands frais, en fait. Nous finançons une moitié de notre programme artistique, si pas la totalité, par, en fait, la location aussi de nos espaces. Donc, chaque fois qu'on ne fait pas ça, on perd de l'argent. Donc, en ces cas-là, on essaie de faire des projets de coopération. On met en disposition le lieu, mais on demande en contrepartie, par exemple, en work in progress, une démonstration publique, gratuite pour les spectateurs, pour que ça crée un lien entre les artistes et spectateurs. Et nous pouvons aussi légitimiser la nécessité du cirque d'investir dans ces spectacles. Parce qu'en réalité, ça devient un investissement de la part du cirque qui doit mettre beaucoup de ressources, pas qu'humaines, mais aussi vraiment financières dedans.
De ce changement de cap en 2017 et ces orientations stratégiques que sont les spectacles, l'école et la production, jusqu'à cette année en 2024, une date clé, la grande réouverture qui a eu lieu en mars dernier. Je voudrais savoir, au-delà de la directrice que tu es, et d'ailleurs on se tutoie parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques temps, donc ça nous paraissait plus naturel d'utiliser cette option. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Quel aboutissement, quel acheminement ça a été cette date de mars 2024? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, cette soirée de grande réouverture?
C'est une date, je pense, qui restera une des dates les plus importantes dans ma vie. Parce que symboliquement, c'était quand même un aboutissement d'un projet de vie. Le projet n'est pas fini. Même dans le cirque, il n'y a pas que de fonctionnement, on a aussi des projets de futur. On a vraiment envie de créer aussi un black box. On a envie de construire l'école et surtout créer un programme de licence en cirque, parce que je ne crois pas au futur du cirque contemporain en Lettonie sans une formation professionnelle du cirque dans le Pays Baltes. Mais le 21 mars 2024, c'était vraiment symboliquement le moment où je me suis dit « mon rêve est devenu la réalité ». Quelque chose pour lequel on a tellement travaillé pendant tellement longtemps est devenu une réalité. Et on voit physiquement la réouverture du cirque, la reconstruction du cirque et la nouvelle programmation c'était pas qu'en spectacle, c'était toute une semaine où on avait, il y avait 80 collègues étrangers qui sont venus être là en ce moment avec nous et de célébrer cette, cette solidarité aussi, parce que ce projet n'aurait pas pu être né sans le soutien de nos collègues étrangers. L'impact de collaboration avec le réseau de pays baltiques et nordiques, avec Circostrada, les conseils, le soutien dans des moments désespérés, l'inspiration, tout ça, c'est vraiment, c'est une communauté de cirque à l'étranger qui nous a soutenus pendant ces 7 ans, mais en réalité pendant beaucoup plus longtemps. Et c'était beau d'être avec tous ces gens-là, d'être avec le public, avec tous nos amis, et de se dire, bah, à partir d'aujourd'hui, le cirque est ouvert. À partir d'aujourd'hui, on est à la maison. Et les artistes de cirque sont à la maison. Et c'est là où on va grandir des nouveaux élèves, où nouveaux spectacles seront créés, et des gens vont venir et vraiment vivre le cirque contemporain. C'est comme se dire que la grande galère, finalement, est finie, on est à la maison. Et là, on peut commencer à travailler. Parce que pendant longtemps, on a réfléchi, on a écrit, on a fait des spectacles dans des autres théâtres, il y a eu la pandémie. C'était un temps bien compliqué. Bien un temps, c'est finalement pas si long. Mais le 21 mars 2024 sera toujours écrit, je pense, dans ma biographie, avec des grandes lettres engravées. Et c'est ce qui est assez symbolique aussi, c'est que c'était un mois d'avril 2012 où j'avais décidé de dédier ma vie au cirque. Et du coup, ça fait une sorte de cycle de 12 ans. Mmh. 12 ans plus tard, en fait, cette rêve est achevée et on a ces nouveaux cirques contemporains en plein centre de Riga comme un lieu reconnu. Et... oui, comme un lieu reconnu, mais aussi comme un art reconnu. Parce qu'en 2012, quand je décidais de dédier ma vie au cirque contemporain, en Lettonie, personne ne savait ce que c'est. Les gens me posaient les questions, mais c'est quoi le domaine dont tu parles? Tu as choisi une profession impossible. Et 12 ans plus tard, en fait, ce n'est plus une profession impossible. Il y a plus de 25 personnes qui travaillent dans le cirque de Riga.
Je voudrais à un certain moment avoir effectivement ta définition du cirque contemporain, parce que un des objectifs de ce podcast, c'est de questionner ce qu'est le cirque contemporain. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai eu l'occasion d'avoir l'entretien avec la bande à T-Rex, que moi j'arrive de manière très, très néophyte, et j'ai découvert ce monde merveilleux grâce à toi, grâce aussi au volontariat que je fais ici en Lettonie, ce qu'est le cirque contemporain. Mais on y reviendra un peu plus tard. Tu as évoqué la collaboration et même l'amitié qu'il y a entre les pays baltes dans le secteur du cirque. Ça aussi, c'est un point qui m'intéresse. Mais juste avant, je voudrais revenir sur cette coopération que tu as aussi avec la France, parce que lors de cette date clé, qui a été le 21 mars 2024, il y avait dans la salle Madame l'ambassadrice de France en Lettonie, Madame Aurélie Royer-Gounin, ainsi que Monsieur Mathieu Leporini, directeur de l'Institut français en Lettonie. Quel partenariat, quelle collaboration tu as avec ces deux institutions? Tu, non pas seulement personnellement, mais le Cirque de Riga, quel partenariat entretient-il avec ces deux institutions?
Nous sommes été partenaires avec l'Institut français depuis longtemps, sur des moments... plus ponctuel, mais c'était, je pense que l'Institut français nous soutenait, à moi moralement, depuis longtemps, et c'est pas pour rien, c'est aussi l'inspiration du cirque de Riga, de cette nouvelle stratégie, vient de la France. C'est en France où j'ai vu des pôles cirque, et je me disais que c'est ça le modèle que je voudrais suivre pour le cirque de Riga. Et donc, c'est un partenaire naturel, et c'était, je pense, très naturel de tourner vers l'Institut français, et vers la France pour la saison d'ouverture. Parce que c'est la France d'où vient le cirque contemporain. France, c'est vraiment... c'est là où le cirque contemporain est né, où les premières écoles de cirque se sont... étaient ouvertes. Et même aujourd'hui encore, tout le monde regarde la France comme une sorte de mec du cirque contemporain. Et c'était naturel de se dire qu'on va faire la saison d'ouverture dédiée au cirque français et à la diversité du cirque français. Et donc, avec l'Institut français de Riga, mais aussi avec l'Institut français de Paris, cette année, on a vraiment réussi à construire un programme qui nous montre de différents styles, de différents côtés, de différentes compagnies de cirque contemporain en France, en commençant par le Bande T-Rex pour la grande ouverture, mais ensuite ce sera suivi par la compagnie De Fracto pendant le festival, avec le spectacle en attendant le grand soir, par la compagnie Douce Souplice, et par les cirques in extremis en automne.
Dans un entretien donné à Circus Info publié en avril 2022, tu disais concernant le développement du cirque dans les pays baltes que, je cite, « Pour un véritable développement, nous devons organiser les infrastructures à la fois pour l'éducation et la création et plaider en faveur du financement du secteur. En Lettonie, nous avons des institutions pour le cirque, mais une petite communauté. L'Estonie est à l'opposé, mais la Lituanie présente un bon mélange. » Ça, c'était il y a 2 ans. Est-ce que tu as vu des évolutions depuis ?
Alors, je pense que c'était une interview que je donnais quand je devenais la directrice de cirque, donc il y a 2 ans et demi. Je pense que la réouverture du cirque de Riga est un grand développement. Je pense que ça a attiré aussi beaucoup de gens à Riga et que la communauté du cirque grandit à Riga, mais elle est loin d'être suffisante pour un vrai mouvement de grassroots. Je trouve que peut-être la communauté inofficielle où le milieu associatif est plus riche en Lituanie. Et c'est toujours l'Estonie où il y a le plus de pratiques amateurs et où il y a peut-être le plus des élèves qui partent étudier dans les écoles professionnelles à l'étranger. Donc, bizarrement, l'Estonie, ça reste toujours le pays où le cirque n'est pas du tout reconnu, mais avec le plus de professionnels diplômés. Lettonie, c'est le pays où le cirque est le plus reconnu avec une institution officielle, mais avec les moins de professionnels basés ici. Et Lituanie, c'est peut-être la plus grande communauté, mais avec des autodidactes de cirque et la vie associative la plus riche. Je pense que dans les 3 directions existantes, ça a développé dans les 3 pays, mais par contre, on ne voit pas une amélioration dans le secteur qui manque. Ce n'est pas devenu plus reconnu en Estonie. Il y a plus de festivals en Lituanie, mais il n'y a toujours pas un lieu dédié et il n'y a toujours pas une infrastructure de formation en Lituanie. Et pareil, en Lettonie, il nous manque encore une communauté, mais une communauté que je pense va venir avec l'infrastructure. Si on aura vraiment plus de possibilités à donner des résidences, il y aura plus de temps pour l'entraînement pour les artistes. Je pense que Lettonie, c'est une bonne destination pour la communauté circassienne.
Cette coopération entre les pays baltes, elle se matérialise à travers un réseau. Il y a notamment eu un meeting de ce réseau, comme tu le disais, lors de la grande réouverture. C'est le Baltic Nordic Circus Network. Si on voulait faire une traduction spontanée, pardon, le réseau de cirque de la Baltique Nord. Quel est ce réseau exactement et quels acteurs inclut-il et quel rôle y joue le cirque de Riga?
Alors, le cirque de Riga est très lié avec le festival Rai Riga qu'on a fondé en 2013 et qui sont maintenant rejoints leurs forces et on travaille ensemble. Et j'étais aussi dans le festival Rai Riga. Et en fait, Rai Riga, c'était un des fondateurs de ce réseau qui était la continuité du réseau de pays du Nord, en fait, à un moment donné. Vers 2013, on s'est dit, alors le pays du Nord, on existe aussi, on a du cirque aussi, on veut faire partie. Et ils étaient très accueillants, comme des Scandinaves. Et on les a rejoints et on a fondé le cirque du pays baltique et du pays du Nord. Et c'est en raison, en fait, qui regroupe les institutions principales dans chaque pays de cirque contemporain et qui travaillent ensemble vraiment pour le développement du secteur du cirque dans les pays baltes et dans les pays nordiques. Et c'est vraiment un réseau de coopération. Ça veut dire on travaille vraiment pour le bien commun. C'est un réseau qui est beau parce que c'est pas pour les intérêts personnels ou pour vendre des spectacles ou acheter des spectacles. C'est vraiment pour construire des façons à travailler mieux ensemble. Comme exemple, je peux citer, il y a quelques années, on a identifié qu'il y a un manque des standards unifiés pour le rigging, pour les accrochages des agrès et pour les sécurités. Donc en fait, on a construit tout un projet pour unifier en fait les connaissances de nos professionnels techniques et pour se mettre d'accord sur des standards qu'on veut attendre pour que les artistes qui voyagent dans notre région, ils sont sûrs que les mesures de sécurité sont pareilles dans tous les 3 pays. Pareillement, ces dernières 2 années, on a travaillé sur un projet sur la capacité des enseignants au cirque. Et donc, on a envoyé des enseignants à faire des échanges entre les écoles pour travailler pendant 3 semaines dans des écoles à l'étranger pour échanger cette expérience et pour unifier, en fait, la qualité d'enseignement dans les 3 pays. Et c'est ce genre de projet qu'on va mener avec le réseau. Et parfois, ce sera aussi, on va inviter des collègues des autres pays pour expliquer, par exemple, à des gens qui font les décisions, aux politiciens, comment ça a fonctionné dans des autres pays, quels sont des exemples, qu'est-ce que ça a apporté à un pays ou à un autre. Donc, c'est vraiment un réseau qui est très, très, très utile pour nous. Et c'est vraiment un réseau de solidarité.
À présent, je voudrais interroger avec toi ce qu'est le cirque contemporain. Alors, premièrement, je voudrais commencer effectivement par interroger, te demander vraiment de manière très claire, qu'est-ce que c'est selon toi, en commençant par cette petite piste. Dans son livre « Une introduction au cirque contemporain », Tommy Provara cite le chercheur Marcello Truzzi, qui donne sa définition du cirque dans les années 60, donc nous sommes encore sur le cirque traditionnel, et il dit que le cirque est un spectacle organisé d'animaux et d'artistes habiles qui se produisent sur une ou plusieurs pistes qui composent l'arène entourée par le public. Évidemment, le cirque contemporain, de ce que je sais, de ce que je vois, les animaux ne sont pas présents. Mais ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est qu'elle est très concise. Donc je dirais, quels ajustements, toi, tu ajouterais à cette définition? Si c'est possible d'avoir une définition du cirque contemporain qui peut tenir en deux ou trois lignes.
Pour moi, le cirque contemporain est un langage. On utilise le corps comme notre outil principal et qui se fait des références sur des disciplines du cirque traditionnel. Et c'est tout. On pourrait parler du risque, de dépassement de soi, des différentes disciplines, mais pour moi, ce n'est pas le principal. C'est vraiment, c'est ton langage qui est utilisé par des gens qui ont pratique de circassienne pour exprimer leurs idées et leurs émotions. Je définis le cirque en utilisant circassien, ce qui rend tout compliqué. Mais je pense que l'art de cirque, c'est ça. L'art de cirque, c'est ton langage. On utilise la pratique circassienne pour exprimer des idées ou des émotions. La pratique circassienne, ça, pour moi, c'est plus un terme historique. C'est une pratique des disciplines qui était historiquement liée au cirque traditionnel, qui est les grands groupes, l'acrobatie, manipulation d'objets, équilibre, clownade. Mais le cirque contemporain, je pense que c'est ça la grande différence. Pour moi, c'est pas quelque chose que tu peux décrire par la forme, mais par le contenu. Et c'est la grande différence pour moi entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain, c'est que c'est le contenu qui prend la surface. Bien sûr, on ne peut pas être un bon artiste du cirque sans une maîtrise absolue de sa discipline, mais ce n'est pas la maîtrise qu'on vient regarder. Et ça peut aussi ne pas être la maîtrise qu'on montre. Ça peut être une réflexion qui est née par cette maîtrise. Par comment on danse contemporaine. Je pense que c'est d'une manière à se développer qui sont caractéristiques à beaucoup de formes d'art, tant art plastique qu'art de la scène. Le cirque garde peut-être beaucoup plus cette maîtrise encore aujourd'hui dans sa forme contemporaine, parce que c'est vraiment la spécificité du cirque. Ce dépassement de soi, elle est toujours là, mais ce n'est plus le centre. On ne vient pas regarder à quel point c'est difficile à faire emporter une main. On vient regarder, on vient vivre les émotions que ça nous transmet.
Là, effectivement, je retrouve aussi dans tes mots, dans ta définition, ce que j'ai reçu de John et Benny de la bande à T-Rex, qui parlait effectivement des influences du théâtre contemporain et de la danse contemporaine. Et effectivement, l'importance de l'histoire qui est racontée. Tu parlais du contenu, peut-être le contenu qui aurait une priorité sur la forme, tout en ayant évidemment besoin d'une maîtrise technique.
J'évite d'utiliser le mot histoire. Parce que quand je dis histoire, des gens ils pensent que c'est forcément une histoire linéaire qui va du A à B. Mmh. Mais comme dans le théâtre contemporain, ce n'est plus toujours une histoire du A à B. Ça peut être aussi un contenu. Enfin, il y a un autre mot en français, j'en suis sûre. Mais c'est une transmission. On transmet, un artiste transmet quelque chose. Et les outils artistiques qui sont utilisés, que ce soit une histoire, un scénario, des images, ça peut être fait de manière très, très, très différente. D'ailleurs, une œuvre d'art circassienne n'est plus forcément un spectacle. On peut très bien imaginer une installation ou une exposition, une performance, un spectacle, un film, Et donc, le langage artistique, il peut changer. Bien sûr que la plupart du temps, c'est un spectacle, mais ça peut changer aussi. Et donc, c'est pas toujours un scénario classique. C'est pour ça que j'évite d'utiliser le mot histoire, mais oui, à la base, c'est ça, c'est le... C'est ce qu'on intéresse, c'est qu'est-ce que l'artiste veut transmettre au public. Quel est le dialogue, quelle est la relation qui se crée entre l'artiste et le public.
Et du coup, si je comprends bien ce que tu dis, intrinsèquement, ça veut dire que le cirque contemporain est pluridisciplinaire, interdisciplinaire.
Je pense que le cirque en soi est interdisciplinaire d'ailleurs. Je pense que même dans l'histoire du cirque, il a toujours été interdisciplinaire, vu que c'était un lieu où des gens venaient d'être émerveillés. C'était du business de cirque traditionnel, c'était vraiment... c'était un spectacle de spectaculaire. C'était là où on voulait venir, on voulait regarder, c'est ce qu'on n'a pas vu encore. Donc forcément, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, du cinéma, du moto, on amenait tout au cirque. Donc déjà, il est pluridisciplinaire par son histoire. Et d'aujourd'hui, le cirque contemporain est pluridisciplinaire aussi. Par d'autres moyens, justement, mais cette mélange entre le théâtre, danse contemporaine, musique, discipline du cirque, elles sont toujours tous là.
Tu m'offres une très belle transition parce que tu as évoqué les mots business et spectaculaire. Et c'est là-dessus que je voudrais orienter la discussion maintenant. Je vais toujours continuer à citer Tommy Provara dans son livre d'introduction au cirque. Il soulève dans son livre une question qui m'a beaucoup intrigué. Il écrit ceci. Notre réalité quotidienne est encore clairement différente des disciplines et expressions du cirque. Depuis qu'il existe, le cirque a créé sa propre mesure des capacités physiques et des performances. L'aberration dans le cirque peut être l'inversion des choses, des personnes et des lois naturelles, et des qualités et des actions qui, dans un autre contexte, semblent s'écarter énormément de la norme, peuvent être considérées comme importantes dans le cirque. Par exemple, le cirque a présenté des paradoxes dans lesquels les numéros physiquement exigeants, attendus d'une femme forte, d'un dompteur d'animaux ou d'un acrobate, remettent en question une conception limitée de la féminité. Le cirque traditionnel et les variétés ont parfois même remis en question la démarcation entre les hommes et les animaux. Ce qui m'a vraiment intrigué ici, et tu parlais de spectacle et de business, c'est que je n'ai pu m'empêcher en lisant ces lignes, à l'exhibition qu'il y a pu avoir des marginaux, notamment ce qu'on a appelé les monstres humains, que je mets entre guillemets, tels les femmes à la force herculéenne, les femmes à barbe, les siamois ou les personnes de petite taille, dont on peut tous se faire une image, qu'on a eu notamment à travers le cinéma avec Freaks de Todd Browning ou Elephant Man de David Lynch. Et ça, malheureusement, c'est fait aux dépens de la dignité humaine. Ma question, c'est comment aujourd'hui le cirque contemporain peut être vecteur, peut être outil d'inclusion, évidemment, avec la dignité humaine, comment il peut inclure les marginaux? Et par marginaux, j'entends ici les personnes qui sont mises en marge, les personnes qui sont discriminées par la société, que ce soit par leur genre, leur âge, leur sexualité, leur capacité physique ou cognitive, parce que je sais que c'est aussi une des valeurs du cirque. Comment on inclut aujourd'hui les personnes, et ça va de soi, en préservant leur dignité humaine?
C'est une très bonne question. La question... de l'inclusion aussi dans l'histoire du cirque est très intéressant. Parce qu'en fait, il est vraiment possible de faire d'être l'avocat du diable de deux côtés, en fait. Parce qu'il y a bien des exemples. Il y a le cirque qui, par exemple, aux Pays-Bas, il y a justement une histoire de cirque qui, d'une certaine manière, sauvait les enfants qui étaient différents, des institutions closes et terribles, par leur proposant de travailler dans le cirque et avoir une vie et une indépendance toujours compliquée d'aujourd'hui, avec un point de vue aujourd'hui, de savoir à quel point ils étaient traités de même manière ou pas. Mais on ne peut pas nier qu'il y a une certaine indépendance financière et pas que, et une liberté qui était donnée à beaucoup de gens par la possibilité d'être part de cette communauté du cirque. Et en même temps, on ne peut pas nier non plus qu'il y a eu vraiment une utilisation de ce genre-là. Aujourd'hui, le cirque est une forme d'art. Je pense que ça, c'est important. Ce n'est plus une forme de divertissement. C'est une forme d'art et d'expression artistique. Donc, ceux qui font partie du cirque, c'est des gens qui ont une volonté de s'exprimer par des moyens du cirque. On peut forcer personne d'en faire part. On n'a pas pour l'objectif de convaincre tout le monde de devenir des artistes du cirque et sans te communiquer en jonglant. Mais c'est un vrai défi de comment ouvrir la pratique circassienne pour des gens pour qui ça soit plus compliqué. Est-ce que nous sommes équipés, par exemple, pour proposer des cours de cirque pour des gens avec la mobilité réduite? À Riga, non. Malheureusement, non, parce que notre salle a des escaliers à son entrée. Donc, quels sont les moyens que nous pouvons faire? Et souvent, c'est des petits challenges. La grande question, c'est comment nous pouvons rendre la pratique du cirque accessible pour les gens qui, naturellement, n'auraient pas tendance à aller vers là-bas, mais qui sont intéressés par ça, en réalité. Et comment ouvrir ça pour élargir cet intérêt? Par exemple, il y a 2 ans, on avait une conférence sur la pédagogie du cirque et on avait invité une artiste du cirque d'Angleterre qui était une artiste aveugle. Et elle nous apprenait à comment faire des audiodescriptions des spectacles du cirque. Et moi, j'étais étonnée parce que j'aurais jamais pensé... J'ai bien pu imaginer qu'il peut y avoir des gens qui veulent venir au spectacle du cirque et avoir une audiodescription, mais j'aurais pas pensé aux artistes qui sont aveugles et qui font des spectacles du cirque. Mais comment adapter l'enseignement? C'est d'un côté, comment adapter le pratique professionnelle? Comment adapter aussi l'expérience en tant que public? C'est des grosses questions. Le cercle commence à y réfléchir, mais je n'ai pas vraiment toutes les réponses. Et c'est que le début de cette conversation. Parce que par sa nature de dépassement de soi, de risque physique, de toute cette virtuosité, il a une nature d'exclure plutôt qu'inclure, dans certaines manières. Et c'est le travail, je pense, qui est très intéressant que les circondéfants pourront commencer à faire sur soi, c'est comment détourner ça et comment aller vers inclure plutôt que vers exclure, sans perdre aussi son essence d'excellence et d'expertise, de comment trouver en fait des domaines où chacun peut devenir un expert.
Tu as dit quelque chose qui, pour moi, a vraiment fait tilt. Tu as dit que le cirque n'est plus un divertissement, c'est devenu un art. En conséquence, puisque c'est un art, il reflète ou il interroge la société, comme le font tous les arts. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. Et c'est aussi ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse dans le passage que j'ai lu du livre de Tommy Purovara. Lorsqu'il donne l'exemple d'une remise en question de la féminité ou de la démarcation entre les hommes et les animaux et évoque l'aspect carnaval qu'a pu avoir le cirque traditionnel, ça a permis de mettre au défi les spectateurs sur leurs propres valeurs et sur les conventions sociales. Est-ce que le cirque contemporain aussi cette capacité, la capacité je pense qu'il a, mais est-ce que tu penses qu'il a l'envie, sciemment ou non, de questionner les conventions sociales?
Je pense qu'on ne peut pas parler d'une envie du cirque parce que c'est énormément de gens. Je pense que dans le secteur du cirque, il y en a beaucoup d'artistes qui ont cette volonté-là. Et je pense que c'est très intéressant, c'est ce que Tommy a dit, sur le questionnement de rôle aussi d'hommes et de femmes. J'aurais pensé que c'est quelque chose dont on peut parler il y a 100 ans. Mais il y a 5 ans, on avait un spectacle suédoise par la compagnie Giraffe, qui était fait par deux filles acrobates. Et je me souviens, c'était un spectacle pour les enfants préscolaires. Et il y avait une petite fille qui a dit à ses parents, elle dit ah, « Regarde comment le garçon fait ça !» Et sa maman, elle a dit bah, « Non, non, c'est pas un garçon, c'est une fille. »« Pas possible, les filles font pas ça. » Et je trouvais ça très beau. Et je trouvais ça très beau, en fait, que le cirque peut toujours être un encourageur, d'une certaine manière, à se dire bah, « Si, en fait, on a ces capacités, on peut le faire. » Et c'était le moment où je me suis dit « Il faut vraiment que je me bats pour avoir une parité sur la scène, qu'il y avait vraiment une représentation 50-50, parce qu'à l'école de cirque, en ce moment, on a presque 90% des élèves filles. Et s'ils vont voir au spectacle professionnel 90% des hommes sur scène, ils ne vont pas avoir l'impression qu'elles peuvent être ces artistes sur scène. Et c'était beau d'entendre la mère qui corrige la fille en disant « c'est une fille », mais ce serait encore plus beau quand cette fille de 5 ans n'aura pas l'impression qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et que le cirque sera le premier endroit où elle verra qu'une fille aussi peut faire des exercices acrobatiques tout à fait possibles à faire. Et donc je pense que c'est très important en fait. Et ça commence par la représentation. Ça commence par la représentation des genres, ça commence par rapport à la représentation de, des différentes tailles et formes des gens. Et je pense que là où on a quand même beaucoup travaillé dessus avec notre programmation, c'est aussi par rapport à qu'est-ce qui c'est la masculinité et la féminité sur scène. Surtout questionner la masculinité, parce qu'on vit en Lettonie quand même dans un pays où ça commence à changer, mais on a des... On a traditionnellement des rôles très préconçus de ce que c'est d'être l'homme et ce que c'est d'être femme. Et la danse contemporaine, le cirque, je pense que c'est des endroits où on peut avoir une ouverture et provoquer une ouverture aussi dans les esprits.
De la parité sur scène ou dans les écoles à la parité dans les administrations, est-ce que dans tout ton réseau de cirque à travers le monde, tu connais d'autres et tu connais beaucoup de femmes directrices de cirque ?
Dans le pays scandinave, surtout oui, on est un réseau très féminin. Je pense que c'est comme dans tous les domaines. J'en connais beaucoup plus au nord et beaucoup moins au sud. En Europe du Sud, c'est un milieu beaucoup plus masculin. Mais le cirque reste quand même très féminin. Et je trouve que ça reste aussi un milieu qui est même très démocratique. Je ne peux pas dire pour les artistes, je ne sais pas comment c'est pour les artistes, mais tant au niveau d'administration, à l'intérieur du domaine du cirque, je ne me suis jamais sentie discriminée ou jamais senti que le fait que je sois une femme soit un frein dans le développement de ma carrière. Ça peut arriver à l'encontre des autres domaines comme la construction, par exemple. C'était un vrai challenge d'être directrice pendant la reconstruction et travailler avec les grandes usines, enfin, les grandes entreprises d'ouvriers. Ça, c'est quelque chose. C'est étonnant pour eux de voir une femme directrice. Mais je trouve que dans l'industrie du cirque, ça n'a jamais été étonnant.
Nous arrivons à la fin de cet entretien. On voudrait te questionner sur les projets à venir. Dans très peu de temps aura lieu le Reriga Festival, dont tu nous as parlé un peu plus tôt. Cette année, dis-moi si je me trompe, mais je peux déjà citer Altagama, Xabi, Larea, Mort Collective, Compagnie Midnight, Defracto, Félix et Philo, à la programmation.
On aura aussi deux spectacles par Mariano.
OK.
Et on a aussi Tom Moncton, qui revient chez nous. Et c'est un grand plaisir, parce que Tom Moncton, c'était de l'artiste. C'était le premier artiste qu'on avait programmé avec la nouvelle stratégie du cirque en décembre 2017. Et il revient chez nous pour une résidence pour faire sa dernière création.
Pour conclure sur le Reriga Festival, on a parlé du coup de tes expériences et de tes collaborations avec la France notamment, et tu disais ce fer de lance qu'est la France concernant le cirque contemporain. Est-ce que tu cherches à développer en Lettonie et dans les pays baltes, à donner plus d'importance? Quel est l'équilibre que vous trouvez pour ce festival en particulier entre donner la place aux artistes baltes et lettons et les artistes étrangers?
La proposition dans le pays balte est malheureusement très limité. Et c'est toujours été un festival international. Mais depuis le début du festival, depuis la troisième année, je crois, on avait installé une scène locale. On avait toujours... On choisit au moins un artiste local à qui on donne la place et qu'on programme. Et cette année, on voit que ça a vraiment développé, parce que cette année, on aura 4 spectacles de pays baltes, donc ça fait un tiers de programme, un tiers de notre programmation en fait sera local et 2/3 de programmation sera international. Mais je pense que cette proportion, elle montre bien le développement du cirque dans le pays baltes, parce qu'on a toujours voulu avoir le plus en plus de spectacles, mais il y en a pas énormément de spectacles qui tournent, et puis comme des spectacles tournent pendant plusieurs années. Et que dans plusieurs spectacles, tu as souvent les mêmes artistes. Tu ne peux pas en reprogrammer tous les ans. Tous les ans, tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Mais j'espère que cette proportion de 30% sera aussi vraie dans le futur.
Nous avons commencé en te découvrant un petit peu. Finissons afin de te découvrir un peu plus. Tu as publié un livre cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi ça parle, de quoi il s'agit et s'il sera un jour disponible en français ou voire en anglais?
Alors, pour être très honnête, il faudrait dire que nous avons publié, parce que c'est un livre dont j'étais invitée d'être la directrice du livre. Et j'ai travaillé avec 4 autres auteurs qui ont écrit la plupart des articles et qui ont fait la plupart de recherches. Et finalement, surtout, il faut que je cite Elvira Abouet, qui est devenue, en fait, avec moi, à la co-direction de ce livre, en étant vraiment la personne, je pense, qui a fait les plus de recherches sur l'histoire du cirque en Lettonie. C'est un livre qui raconte l'histoire du cirque de Riga depuis sa création jusqu'aux années 50 et qui est basé sur ce qu'on a retrouvé dans les archives du cirque. Donc, il y a des magnifiques photos, des posters dans l'archive du cirque et on a raconté l'histoire par ces images et par des textes qui viennent avec. Et c'est une histoire passionnante à découvrir, surtout comment de différentes époques qui ont traversé l'histoire de Lettonie, la première indépendance, l'occupation soviétique, l'occupation nazie, la réoccupation soviétique, comment tout ça a influencé le développement du cirque, mais aussi comment le cirque est juste un miroir de tous les changements qui se passent dans la société. Donc, on ne sait pas encore si jamais le livre sera traduit, mais peut-être qu'on va attendre d'abord la deuxième partie du livre qui va raconter l'histoire jusqu'à aujourd'hui et puis chercher un moyen de le traduire dans les deux langues, peut-être quand les deux tomes seront finis.
Merci Mara d'avoir accepté cet entretien et félicitations pour cet immense projet qui a été la grande réouverture du Cirque de Riga et plein de bonnes choses pour le futur du cirque et toi personnellement. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté un nouvel épisode du Cirque de Riga. Et pour en savoir plus sur les événements à venir, rendez-vous sur cirks.lv, cirks.lv. À bientôt.
Merci.
Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.